France Info.
Bonjour Yann Gottlieb.
Bonjour Elodie.
Vous êtes, comme votre nom l'indique, la fille unique du couple Claudie et Marcel Gottlieb, fan inconditionnel du 7e art. Votre père, auteur de bandes dessinées, artiste, écrivain, dessinateur, éditeur, je rajouterais militant aussi. Le même qui a créé le héros intergénérationnel indémodable Galuron, La Coccinelle, les séries tout aussi incontournables, hein, Les Dingos Dossiers, réalisées par René Goscinny, Rubrique Abrac, Les Aventures du Super Dupont, a marqué à jamais le monde de l'art, et notamment du 9e art. Il a aussi beaucoup publié dans L'Écho des Savanes et dans Fluide glaciale, de mensuel devenu culte qu'il a co-fondé. Depuis sa disparition en 2016, vous avez décidé d'arrêter votre métier de script pour vous consacrer à plein temps à votre devoir d'ayant droit, donc fille de. Vous êtes donc devenue conservatrice en chef du monument très joyeux, effectivement Gottlieb, de l'œuvre colossale de ce géniteur de génie. Et dans ce cadre-là, vous avez créé le prix Gottlieb, remis au Festival du Livre de Paris samedi dernier pour la deuxième année consécutive. Je vais déjà vous laisser nous donner le nom du lauréat.
Alors cette année, le lauréat, c'est un jeune homme qui s'appelle Mo CDM.
Je voudrais qu'on parle justement de ce prix. C'est ça, c'est un clin d'œil, c'est un hommage, c'est une façon de saluer justement l'importance du dessin.
Alors l'importance du dessin, l'importance de la bande dessinée, l'importance de la bande dessinée humoristique et l'importance de Gottlieb aussi dans la culture générale. Cet album, je trouve, est particulièrement adapté puisque dans son histoire, l'histoire que raconte l'album, pour le coup, c'est comment rendre le monde un peu moins mélancolique, un peu moins triste. Donc, c'est idéal cette année pour recevoir ce prix-là, quoi.
C'était ça, le travail de votre père, d'embellir un peu ce monde, de le rendre plus gai, essayer surtout de dédramatiser une histoire familiale et même qu'il a vécu lui en tant qu'enfant, puisqu'il a fait partie de l'OPEJ. Donc, c'était l'œuvre, effectivement, de protection des enfants juifs. Oui. Il avait réussi à échapper à deux rafles. Son père, malheureusement, a été pris, lui, et envoyé à Drancy. C'était ça, son travail?
Oui, c'était de rendre humoristique tout ce qui pouvait l'être, en tout cas, dans son travail. Et puis, ça lui permettait d'être un peu plus heureux dans sa vie privée aussi. C'est vrai que c'était quelqu'un pas si drôle que ça à l'arrivée. Un peu névropathe, un peu psychopathe. Il paraît qu'un artiste un peu névropathe à polystérique, ça lui convenait très bien. Mais c'était un très chouette mec qui essayait vraiment, de par fluide, de rendre le monde un peu moins triste.
Vous étiez très proche de votre père.
Extrêmement.
Très fusionnel. C'est marrant parce qu'il avait créé deux portes au départ. Il voulait vous protéger, sa famille, des journalistes et du monde des médias en général. Et finalement, il a fermé cette porte qu'il avait créée pour que vous soyez protégés, pour ouvrir une seule et unique porte, celle de la maison. Quel père était-il, Ariane ?
C'était un père totalement fantastique, mais pour être totalement sincère, pour être sincère, jusqu'à mes 18 ans, assez absent en termes de pure éducation. Extrêmement discret, peu démonstratif, mais bon, l'amour pour moi transpirait de tous ses pores, j'ai manqué de rien. On était fusionnels, certes, mais on était fusionnels avec maman aussi, on était très triangulaires, et j'ai eu une enfance absolument exceptionnelle. Alors j'avais un père qui travaillait à la maison, donc je pouvais l'avoir sous la main, où je voulais, quand je voulais. Maintenant, c'est vrai que finalement, il était un peu dans sa bulle, c'est le cas de le dire.
Enfant, vous avez eu du mal quand même à porter ce nom-là. C'est-à-dire que votre prénom n'existait pas à l'école. Vous étiez la fille de Gottlieb. C'est difficile d'être l'enfant de réussir à se trouver, à s'épanouir quand on est associé à un nom aussi emblématique, aussi fort, aussi puissant.
Non, j'ai pas eu de mal à m'épanouir. En revanche, j'ai plus souffert en primaire et puis au collège de n'être appelée finalement que par mon nom de famille, parce que les enfants sont cruels, hein, comme disait ou Jacques Martin ou Alain Chabat, et qu'ils ont vite fait d'interpréter et d'être un peu jaloux finalement ou envieux d'une personne qui porte un nom célèbre. En tout cas, à cette époque-là, c'était le cas, parce que c'était vraiment le plein boom de la bande dessinée. Les années 70, on était vraiment en plein dedans, et ça marchait très bien pour lui. Donc, c'est vrai que c'était pas hyper facile, mais ça ne m'a pas empêché de m'épanouir, et ça ne m'a pas empêché d'être très fière et d'avoir un bon Oedipe, finalement, aussi bien avec mon père qu'avec ma mère.
Au départ, il vous a transmis aussi l'amour du 7e art. Quand vous rentriez de l'école, vous preniez aussi vos crayons, vous vous amusiez à copier La Coccinelle, à être à ses côtés, effectivement, à être baigné dans sa création, parce qu'il vous a transmis la création, mais aussi l'amour du cinéma.
Ah oui, énormément l'amour du cinéma, puisque si j'ai fait ce métier de script pendant 30 ans, c'est mon père qui, à 12 ans, m'a montré La Nuit américaine. J'ai vu
Le Truffaut, ouais.
Oui, j'ai vu Nathalie Baye et le rôle d'une script qui était Suzanne Schiffman en vrai, qui est un rôle féminin important dans une équipe technique ou d'audiovisuel ou de cinéma, qui était très proche. Suzanne Schiffman a même écrit des bouts de scénario avec lui et j'ai dit là, moi je veux faire ça. Après, j'ai vu Dany Et j'ai dit, bah, je vais peut-être commencer par faire ça. Et Dany était la stagiaire dans le film. C'est donc ce que j'ai fait.
L'écriture, c'est ce qui l'a sauvé lui aussi. Le fait de créer des personnages, d'être auteur, dessinateur, d'avoir effectivement ce crayon, ça lui a permis de voyager, de sortir d'une, encore une fois, une enfance difficile, un parcours de vie très dur.
C'est un vrai exorcisme, hein. Ouais, effectivement. Et puis après, quand il a commencé à un peu plus s'épanouir dans des bandes dessinées toujours humoristiques, mais peut-être un peu plus trash, comme Ralovli ou Ragnagna, où on comprend bien finalement, au travers des dessins, son vécu, comme ce mec qui est chez son psy et qui fait ses besoins par la tête, c'est quand même très clair. Finalement.
Gailuron, c'est sans doute le personnage qui lui colle le plus à la peau.
En même temps, en tout cas, il
s'est caché beaucoup derrière Gailuron.
Il s'est caché, il a évolué avec son héros et son héros a évolué avec lui puisqu'après il a mis un slip. C'est vrai qu'il avait une grosse, grosse tendresse pour Gailuron qui est sorti finalement de Vaillant mieux.
Devenu pif, peu de temps plus tard d'ailleurs. Ouais.
Mieux que les héros de départ qui étaient Nanar, Piette et Jujube. Finalement, c'est Gailuron qui a tiré son épingle du jeu. Et pour le coup, c'est vrai qu'il avait une tendresse absolue pour ce héros. Et puis, parce que ce héros a été inspiré d'autres chiens, que ce soit chez Tex Avery, que ce soit chez Walt Disney, que ce soit chez Snoopy, que ce soit... Voilà, il était très attaché à Gailuron.
Étonnamment, il était très positif dans sa création, par rapport, encore une fois, à ce qu'il racontait. Donc, c'était aussi une façon de détourner, d'exorciser tout ça. Je pense à la coccinelle, par exemple. Une coccinelle, c'est normalement un animal qui nous porte bonheur.
La bête à bon Dieu.
Oui, c'est tout un symbole, finalement. Est-ce que c'était ça aussi, votre père?
Alors, il avait cet optimisme, très clairement, puisque quand il a cessé de l'avoir, et ça, on en a beaucoup parlé, il m'a dit, j'ai envie d'avoir envie, mais j'ai plus envie. Un artiste qui ne crée plus, c'est un artiste mort. Effectivement, certes. Maintenant, la coccinelle, elle était là aussi, un peu comme tous les petits personnages de Walt Disney, un peu féeriques, pour remplir le décor, pour raconter, pour égayer un peu l'histoire et faire l'idiot. Et puis voilà.
C'est étonnant d'ailleurs parce qu'il avait une énorme humilité d'un côté.
Ça, c'était même maladif.
Il ne supportait pas le mot génie, le mot génial.
Non, il était très étonné que ça continue à se lire, que ça continue à se vendre. Et en même temps, c'était très ambigu parce qu'il se dessinait énormément. Donc finalement, il parvenait parfois à avoir une reconnaissance du public où il était vraiment heureux de ça. Mais son ego n'était pas surdimensionné, loin de là. Et effectivement, il était d'une modestie absolument maladive.
Et il avait surtout une énorme capacité, celle de refuser de grandir. Est-ce que c'est pas ce qui définit le plus Gottlieb?
Jusqu'à la fin, il a été attiré par la scatologie, le pipi, le caca, tout ce qu'il fait marrer. Mes enfants le faisaient marrer, les animaux le faisaient marrer, tout ça est très enfantin.
Quel regard il portait, Ariane, sur sa vie, sur ce qu'il avait réalisé, sur effectivement le fait qu'il soit porté au nu par le milieu, adulé par le public?
Je pense qu'il était évidemment heureux et fier. Mais c'est quelque chose qui ne l'a jamais obsédé. Je pense qu'il était content, mais il est resté jusqu'à la fin très discret, finalement, sur ses émotions personnelles. C'était quelqu'un vraiment d'assez réservé, assez introverti.
Est-ce difficile de gérer une œuvre aussi colossale que celle de votre père? De ne pas dénaturer ce qu'il a voulu mettre en place, ce qu'il a voulu raconter?
Il y a une partie qui est difficile parce que je voudrais surtout pas trahir. Il y a une partie qui est facile pour moi, puisque ce n'est pas moi que je vends, c'est lui. Plus facile de le faire pour les autres. Il y a une partie qui n'est pas forcément facile non plus, qui est celle de finalement rester aujourd'hui dans ma deuxième vie professionnelle avec le cordon ombilical bien attaché. Mais en tout cas, ça me rend heureuse. J'ai mis un peu de temps depuis qu'il est parti à savoir comment je pourrais gérer, entre guillemets, cet empire qu'il m'avait laissé. Et puis, c'est vrai que depuis 2 ans, avec ce prix, avec beaucoup de projets qui sont en route, des choses nouvelles, on essaie de faire du nouveau avec un auteur qui n'est pas nouveau et qui, en plus, n'est plus là. Et c'est assez trippant.
Quand on regarde bien, on se rend compte à quel point il est toujours dans le monde des vivants, grâce à ses œuvres, grâce à l'amour de ce public qui ne désemplit pas.
J'espère
tout comme
bien.
Gailuron, tout comme Coccinelle, tout comme...
Oui, même si c'est vrai qu'on est très, très attaché à essayer de toucher un lectorat plus jeune. Aujourd'hui, en dessous de 30 ans, les jeunes connaissent pas forcément. Et puis, les jeunes ne lisent pas forcément de bande dessinée. C'est pour ça que le prix Gottlieb est important aussi. C'est pas seulement Gottlieb, c'est aussi la bande dessinée et la bande dessinée humoristique. Et puis, le fait d'avoir ces jurés fantastiques, parce que j'ai quand même un grand jury exceptionnel, composé de 9 artistes très éclectiques.
Anne de Pretigny, on va les citer, Antoine Decaune.
Oui, Anne, Antoine Decaune, Clara Dupont-Monod, Zep.
Pauline Van Enecker.
Eddie Mitchell, Thomas Dutronc, Catherine Meurice.
Des noms atypiques qui ont aussi une vraie personnalité, qui comptent beaucoup dans le milieu. Ils ont tous dit oui.
Ah oui, ils ont tous dit oui.
Ils ont tous été bercés par votre père.
Oh oui, vraisemblablement, c'est une évidence. Même les deux qui sont partis l'année dernière, qui étaient désolés de ne pas pouvoir honorer cette année, parce que j'avais mis un point d'honneur à finalement garder mes jurés, parce que ce sont des personnes vraiment exceptionnelles, et humainement aussi, sans prise de tête. Tout est facile avec eux. Mais oui, tu nous les envoies, les livres. Mais oui, on va les lire. Mais oui, on est là à la réunion de délibération, voilà.
Il y a eu 50 personnes qui ont postulé, 50 artistes qui ont postulé, 8 ont été retenus.
Vous en avez
sélectionné plus que ça.
L'année dernière, 50. Cette année, on était dans les 65. J'espère que l'année prochaine, il y en aura encore plus, parce que c'est aussi une question de, non pas de notoriété, mais de bruit, que maintenant les éditeurs commencent à envoyer, mais pas au dernier moment, à partir de maintenant, les albums qui sont sortis en 2024 pour concourir au prix 2025.
Je vous laisse redonner le nom du livre. Et du
Le lauréat. Gagnant, idéal et parfait. C'est donc Mo CDM pour cet album vraiment génial. Tout point de vue, dessin, scénario, tiré sur mon doigt, monsieur le président.
Pour terminer, Ariane, si on devait définir votre père, si vous deviez, vous, en tant que fille, définir votre père en quelques mots, vous diriez quoi de lui ? Qui était Gottlieb ?
Un papa artiste génial.
Avec un nom qui change, c'est pas une erreur, parce que régulièrement on entend, mais il manque le E. Le E, c'est effectivement une erreur, mais qui vient de l'état civil.
Oui.
C'est un jeune homme à l'état civil qui s'est trompé.
Qui s'est gouré, Du coup, sur les papiers de papa, les papiers d'identité, son passeport et son permis de conduire, c'est aussi avec le E, comme maman et moi.
Mais par contre, le prix Gottlieb n'en a pas.
Il n'en a pas, c'est le prix de l'artiste.
Il a perdu son homme et pas son sens de l'humour. Merci beaucoup, Ariane Gottlieb, d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info, et au plaisir.
Merci.